du centre Ubuntu for Peace, un centre qui aide les personnes souffrant de traumatismes psychologiques et de troubles mentaux courants dont la plupart résultent de génocides. Nous attendons un troisième invité qui doit nous rejoindre incessamment. On a vu dans le reportage le travail qui est fait pour la préservation de la mémoire collective. Un des invités qui disait que le monde doit apprendre de ces commémorations. Est-ce que selon vous, ces commémorations annuelles jouent un rôle dans la construction de la mémoire collective, de la mémoire nationale, Monsieur Karegeyeh?
Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire, avant de parler de la mémoire collective, reconnaître d'abord que le génocide, c'est vrai, il y a un génocide, il y a d'abord un aspect, un fait privé, c'est-à-dire aujourd'hui, on commémore des individus réels, des gens qui portaient des noms, qui appartenaient à des familles. C'est Jean, c'est Pierre, c'est André. Et donc, pour ces familles, c'est un fait privé, ce sont des personnes réelles qu'on commémore. Un deuxième aspect, évidemment, c'est quand on parle de la mémoire collective, c'est donc un génocide et certainement un fait public, c'est-à-dire la personne ou les personnes qui ont été tuées l'ont été parce que définis comme appartenant à la communauté Tutsi. Et donc, à ce niveau, ça concerne et toute une nation. Et c'est aussi un fait public parce que il s'agit pas seulement d'un individu qui s'appelle Pierre ou Jeanne, il s'agit pas seulement du Tutsi qui est tué, mais il s'agit du genre humain. Et donc là, ça concerne et tout le monde. Et je me rappelle un écrivain congolais, Brazzaville, Henri Lopez, en 1994, où on lui avait posé justement la question de ce qu'il pensait du génocide au Rwanda, et sa réponse était tout simple, j'ai honte d'être humain. Et donc, pour revenir au Rwanda, oui, c'est très important de construire cette mémoire collective, mais et beaucoup plus davantage un futur collectif. Et donc, ça nous renvoie vers un futur où il y a la paix, un futur où il y a la réconciliation, un futur où on peut dire plus jamais ça.
Monsieur Nyanzi, j'aimerais également connaître votre avis sur ces commémorations, ce 30e anniversaire qui sera commémoré cette semaine.
Vous parlez à moi ?
Oui, docteur Nyanzi, oui.
Oui, merci beaucoup. Ce que mon collègue vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, il y a des niveaux individuels qu'on célèbre, commémore et célèbre la personne, mais aussi c'est une action qui regarde les gens qui ont été tués, ciblés, mais aussi c'est public. Donc, en général, c'est commémorer le genre humain, la personne qui a été tué.
Nous venons d'être rejoints par Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Vous avez également couvert de nombreux conflits dans des pays africains et travaillé au Rwanda. Vous êtes dans les studios de la VOA à New York. Bienvenue.
Merci.
Un mot sur cette commémoration, les 30 ans de ce génocide cette semaine au Rwanda.
30 ans après, j'estime tout à fait personnellement, parce que j'ai vécu au Rwanda des choses extrêmement difficiles, et j'ai aussi vécu une humanité qui était en train de se perdre, mais qui, quand même, est restée résiliente. Quand je suis arrivé au Rwanda, peu de temps après le génocide, il était encore véritablement terrifiant de conduire sur les routes en essayant d'éviter les cadavres qui jonchaient le tarmac et qui séchaient au soleil. Il était encore plus terrifiant d'être à Mugunga, dans le camp des réfugiés, qui était très important en population, et vivre à côté de personnes dont la plupart avaient certainement commis de très graves meurtres. Il y a eu au Rwanda un génocide, mais ce n'était pas un génocide comme les autres. C'était parfois un génocide dans le village, parfois même dans les familles. Et un génocide au cours duquel les femmes, notamment, ont subi les pires des atrocités. Mais je voudrais simplement, dans ce propos introductif, préciser et rappeler que Le génocide ne s'est pas passé dans les 100 jours qui ont suivi le déclenchement du 7 avril 1994. Il y a eu une longue préparation, une longue maturation de la haine, dont pendant de longues années, peut-être 30 ans avant, il y a eu, pendant les années qui ont précédé le génocide, une sorte d'empoisonnement des cœurs et des mémoires. La question maintenant, dans une commémoration qui est si importante, est de nous demander, est-ce qu'il faudra prendre autant de temps pour guérir les cœurs, pour soigner les plaies et pour réconcilier les citoyens? La question est aussi de savoir comment faire pour qu'une telle atrocité ne soit plus jamais commise. Alors le Rwanda, c'est aussi un gros exemple de résilience, une reconstruction matérielle très importante. Mais encore faut-il ajouter qu'une reconstruction, la paix des cœurs et des âmes, est un travail qui demeure à faire. Il faut surtout saluer ceux qui, alors qu'ils n'ont jamais quitté le Rwanda, se sont exposés aux rétributions, aux pires dangers. J'ai vécu dans un petit hôtel à Kigali où les gens m'ont accueilli et j'ai donc imaginé comment est-ce qu'ils ont aussi pu accueillir ce qui était la cible de pourchasse, de poursuite. Et c'est donc cette beauté de l'humanité qu'il faut magnifier et c'est cette réconciliation à laquelle il faut travailler.
Professeur Karegeye, Monsieur Nkolo disait à l'instant un exemple de résilience parlant du Rwanda. Peut-on prendre un moment pour évaluer le chemin parcouru par le Rwanda depuis ce génocide?
Oui, je pense que le plus important, ce qui a aidé vraiment le Rwanda, c'est le leadership du président Kagame. Et à la 20e ou au 20e anniversaire ou la 20e commémoration du génocide, il avait dit dans son discours quelque chose chose de très important. Il avait dit, voilà, parlant donc du Rwanda et pensant au génocide, pensant au futur du Rwanda, et il avait dit, voilà, comme pays, nous avons fait trois choix et très importants. Le premier, c'est que nous avons choisi d'être ensemble. Et deuxième, être comptable de nos actes, sentir responsable, pas seulement accuser les autres, mais nous, nos actes. Et troisièmement, penser grand. Et je crois que les trois principes ou les trois choix peuvent expliquer, définir où est-ce que nous sommes aujourd'hui au Rwanda. Ce même pays qui a connu le génocide, et comme l'a bien dit mon collègue, et c'est pas seulement 94, c'est-à-dire il y a une idéologie qui commence depuis 1959, ou plutôt les actes de cette idéologie depuis 1959. Et qu'est-ce que, par exemple, le pouvoir a fait pour aider justement les Rwandais? Donc c'est d'abord le choix de la réconciliation, vivre ensemble. Et vous pouvez vous imaginer, dans un pays qui a connu le génocide, en 2007, en juillet 2007, le pays décide de bannir la peine de mort, la peine capitale. Par exemple, ça, ce sont des choix extraordinaires. Et puis, en choisissant d'avoir une justice traditionnelle qu'on appelle gachacha, et à la différence du droit positif qu'on connaît ou autre forme de justice, c'est que l'autre forme de justice, en réalité, c'est une sorte aussi de vengeance. Vous punissez le criminel. Mais dans le cas de gachacha, c'est-à-dire celui qui a commis le génocide, après un certain moment, peut être accueilli dans le village. C'est-à-dire, il y a un aspect de la réconciliation, il y a un aspect d'introduction, d'accepter celui qui a commis le génocide, de faire partie, d'être partie de la communauté. Ça, par exemple, c'est un autre élément. Et autre chose aussi qu'on peut considérer assez important, c'est que le Rwanda, qui a connu le génocide, n'a pas voulu rester au niveau de cette souffrance et continuer à juste à fait des jérémiades sur ça, mais a voulu utiliser ça comme source aussi d'énergie. C'est, nous avons connu le génocide, mais comment reconstruire le pays? Et c'est comme ça, même le progrès, le développement du pays participe dans une certaine mesure à cette réconciliation. Et bien sûr, un élément aussi, oui, voilà.
On a vu le travail de mémoire qui se fait auprès de la jeune génération notamment, mais le pays mène aussi depuis 30 ans, vous l'avez dit, un travail de réconciliation. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, docteur Niyonzima, avec votre centre Ubuntu for Peace?
Oui, merci beaucoup. D'abord, j'admire les efforts du gouvernement et le travail qui a été fait pour à ramener les gens des Rwandais ensemble. Dernièrement, le ministre du ministère de l'Unité nationale et engagement civique a rapporté que les Rwandais vivent en harmonie au niveau de 97%. Et donc, ce sont les efforts herculéens qu'il faut admirer. Cependant, je devrais dire que une autre étude a été publiée en 2015 et a bien spécifié que les Rwandais en fait cohabitent pacifiquement, mais nous avons besoin d'une guérison sociale pour arriver à une réconciliation profonde. Et nous voyons ce qui se passe dans les communautés. Il y a un autre aspect encore, c'est la transmission de la, donc c'est le traumatisme de l'intergénérationnel et au niveau des jeunes qui est au niveau de 27% d'après les études faites par Interpeace à Bugesera. Et le travail que nous faisons en fait au niveau de la communauté, c'est ce travail profond de guérison des blessures sociales historiques qui intègrent les exercices corporaux spirituels basés sur la respiration et puis la narration collective en utilisant l'arbre de vie et les rituels. Nous faisons ça, nous enseignons ça aux agents de guérison communautaire que nous sélectionnons dans la communauté, nous les recrutons dans la communauté en collaboration avec les autorités locales. Mmh. Nous les formons et nous les supervisons pour qu'ils forment des groupes de guérison. Chaque groupe se rencontre chaque semaine pour 15 semaines. Et après 15 semaines, ils forment des groupes qu'on appelle self-help group ou les groupes de support à long terme.
Monsieur Nkolo, selon vous, quels sont les défis auxquels le Rwanda est confronté aujourd'hui? On a évoqué les gachacha, on a évoqué la réconciliation, mais quels sont les défis auxquels le Rwanda est confronté dans cette quête de justice et de réconciliation?
Alors, je suis allé au Rwanda pour la première fois dans les années 80. Et pour la deuxième fois, quelques jours après, quelques semaines après le génocide, j'y suis arrivé. Mais j'ai aussi été au Rwanda 10 ans après et puis beaucoup plus récemment. La reconstruction matérielle, le défi extraordinaire qui a été maîtrisé par un leadership assez remarquable est là, il est visible. Cette reconstruction matérielle, c'est-à-dire des villes, des villages, de la gouvernance, de l'économie, c'est très important. Il y a une autre reconstruction qui, au-delà de ce que le collègue évoquait, c'est-à-dire la guérison, les soins, le vivre ensemble, il y a une autre chose qui est plus spirituelle, qui est plus lointaine, qui est plus profonde, où nous devons travailler davantage. Que veux-je dire par là? Qui a vécu au Rwanda sait que dans la langue, dans les habitudes, dans la vie en commun, il y a des choses très profondes, parfois qu'on ne dit pas ou qu'on dit à divers niveaux. Et cette reconstruction de l'homme face à l'homme, de la femme face à la femme, des citoyens face à eux-mêmes, est très importante. Et le défi du Rwanda de demain, c'est de continuer ce travail de reconstruction, mais pas seulement matériel, mais aussi un travail de reconstruction spirituelle et d'éducation pour que tous les Rwandais, y compris, et je dirais surtout, ceux qui se sont exilés, puissent revenir et comprendre que le Rwanda, c'est leur pays à eux tous, un pays qui est extrêmement beau, avec un superbe potentiel où on peut vivre en paix. Donc c'est un défi à moyen et à long terme. Il faut effectivement féliciter la gouvernance actuelle au Rwanda, il faut féliciter la reconstruction, mais la gouvernance, le président Kagame et les autres dirigeants, ils ne sont pas là pour de bon. Il faut donc insuffler dans l'éducation, dans les pratiques, dans la citoyenneté, mais aussi dans les lois, dans les médias, toutes sortes d'approches qui évitent qu'une ethnie ou qu'un groupe de population soit pris en dérision ou soit mis dans une posture qui pourrait faire que tuer ces gens soit considéré comme banal. Le défi est là. Éviter que tuer l'autre ou mépriser l'autre deviennent une banalité. Il faut réussir à mettre cela dans les lois et dans la praxis sociale.
Le Rwanda a-t-il aujourd'hui pansé ses blessures? Nous avons voulu connaître l'avis de nos téléspectateurs sur cette question. Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC nous dit que les plaies ne sont pas pansées totalement au Rwanda dans la mesure où la réconciliation peine à se concrétiser. Pour Charles Bazeman de Ouagadougou au Burkina Faso, on peut pardonner ces massacres mais difficile d'oublier. Et à mon avis, nous dit-il, le génocide rwandais n'a pas donné une leçon à certains pays africains. Aujourd'hui sur le continent, il y a des crises à n'en plus finir, du Soudan en passant par la RDC, la Somalie et surtout au Sahel. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que le génocide rwandais est devenu un souvenir difficile à oublier, donc la justice en faveur des victimes est souhaitable. La réconciliation est en train de marcher, mais sans justice, les blessures font place à la rancune inoubliable et les autorités doivent songer à cela. Voilà qui nous amène à la seconde partie de ce débat. Washington Forum sur VOA Afrique. On se retrouve après une courte pause.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Bienvenue si vous nous rejoignez, Washington Forum sur VOA Afrique. Le Rwanda commémore cette semaine le 30e anniversaire du génocide qui a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU. Avec mes invités, nous parlons du difficile chemin vers la réconciliation et la justice. Nous avons à Boston Jean-Pierre Carigueillé, professeur des universités. Également à Boston, Jean-Bosco Nyonzi, médecin et fondateur de Ubuntu Center for Peace. Et à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. L'ONG Human Rights Watch, je le disais à l'entame de l'émission, a jugé cette semaine urgent de poursuivre les derniers architectes du génocide. Comment garantir que ces poursuites judiciaires ne deviennent pas un obstacle à la réconciliation? Monsieur Carigueillé.
Bon, je pense que la justice est très très importante, surtout quand on parle de plus jamais ça. C'est important pour les générations futures, c'est très important pour les victimes d'abord. Donc je crois que c'est quelque chose, on ne peut pas, on parle de la réconciliation, on parle aussi d'un autre pilier important dans la société, c'est la justice, et même restaurative pour les victimes. Donc je crois que c'est un élément important, mais c'est pas le seul pilier, évidemment, et pour sortir du génocide. Et comme l'a dit Jean-Victor Nkolo, et ça c'est très très important, et en parlant de la reconstruction du Rwanda, n'oublions pas que le génocide ou même les guerres qu'il y a en Afrique ou ailleurs en général sont un élément catalyseur en général. C'est aussi des mythes qu'on crée dans le cas précis du Rwanda. Donc il suffit de visiter les archives coloniales, donc les mythes surtout du 19e siècle qui sont à la source du génocide et aujourd'hui qui continuent à nourrir à ceux qui continuent à soutenir à l'idéologie génocidaire. Et face à tout cela, il faudra évidemment une éducation en valeurs et peut-être aussi réinventer ou recréer un imaginaire collectif. Ça, c'est aussi très important.
Docteur Nyonzima, j'aimerais comprendre avec vous, est-ce qu'il y a moyen d'évaluer l'efficacité des mesures de réconciliation mises en place jusqu'à aujourd'hui au Rwanda?
Oui, il y en a. Je crois que jusque-là, le gouvernement a des outils. Il y a ce qu'on appelle le baromètre de la réconciliation. Et le gouvernement, en fait, évalue le niveau de la réconciliation de temps en temps. Et comme je l'ai dit, on a dit que On dit, on rapporte que la réconciliation, et même les gens vivent ensemble jusqu'à 97%. Mais il y a aussi d'autres indicateurs qu'on observe dans la communauté. Est-ce que les gens ils peuvent se marier entre les ethnies? Est-ce qu'il y a des mariages interethniques? Et est-ce qu'il y a une solidarité entre les gens dans les communautés? Est-ce que les ex-prisonniers et les survivants du génocide peuvent vivre ensemble, pas seulement au niveau superficiel, mais au niveau reconstruire la confiance entre eux? Et ça, nous le voyons, mais c'est un chemin long à marcher. Et ce que nous faisons, par exemple, dernièrement, j'ai vu les ex-prisonniers et les survivants du génocide qui disent, 30 ans après le génocide, maintenant je peux m'ouvrir et je me sens free, je me sens libre. Ça, c'est le prisonnier qui le disait, mais aussi parce qu'il a pu marcher et guérir et demander pardon. Mais aussi de l'autre côté, le survivant a fait la même chose.
Donc il y a bel et bien moyen d'évaluer l'efficacité de ces mesures. Le Rwanda travaille à reconstruire une nation unifiée, mais disons-le, les relations ne se sont pas en revanche apaisées avec la RDC, son voisin. Et selon le parquet rwandais, la RDC abrite le plus grand nombre de suspects en fuite. Les accusations mutuelles de déstabilisation sont régulières entre les deux voisins. Aujourd'hui, quels sont les obstacles qui persistent à l'apaisement des relations entre la RDC et le Rwanda? Et est-ce que ces tensions aide à oublier ce passé tumultueux du Rwanda qu'est le génocide, Monsieur Nkolo?
Vous posez là une question lancinante. En réalité, la crise dans l'est de la République démocratique du Congo est un véritable problème, un véritable frein à la réconciliation qui ne doit pas s'appliquer seulement à la question rwandaise ou à la politique interne au Rwanda, mais qui doit aussi réconcilier les pays de la sous-région entre eux, c'est-à-dire les Congolais entre les Congolais, les Rwandais entre eux, les Burundais entre eux, mais aussi les divers pays, bilatéralement et multilatéralement. Que vais-je dire par là? Je veux simplement dire que le retour, par exemple, des exilés rwandais qui ont fui, qui sont allés vers ce qui était à l'époque le Zaïre, ce retour est une sorte de nécessité, c'est une chose très importante qui va beaucoup réduire les tensions dans la région. Je pense que les pays de la sous-région autour des Grands Lacs sont des pays frères. Et je pense que s'asseoir autour d'une table et voir comment, et comprendre comment est-ce que la paix des uns est un investissement pour la paix de tous, cela n'est pas un rêve. Et il faut, aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, alors que les réseaux sociaux sont devenus très importants, alors que les influenceurs sont aussi importants, il faut trouver le moyen de conjuguer une paix qui ne laisse pas la voie ouverte, qui ne laisse pas la porte ouverte à la démonisation. Car l'influence des réseaux sociaux peut aussi être maléfique. Donc la paix dans la région de l'Est du Congo est capitale. Elle est absolument essentielle pour tous les pays de la sous-région.
Je vous remercie pour vos réflexions, cher monsieur. Nous avons à Boston Jean-Pierre Karegeye, professeur des universités, Jean Bosco Nyonzim, médecin et fondateur de Ubuntu Center for Peace, et monsieur Jean-Victor Nkolo qui était dans nos studios à New York. C'est la fin de cette émission Washington Forum avec Alexandrine Frolognon depuis Washington. Merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et Washington Forum. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 19h temps universel sur VO Afrique, voafrique.com, et en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée à toutes et à tous.
Se raconte et se rencontre. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites.